Merci, j'avais déjà un peu entendu des choses donc ça fait plaisir de voir que les choses prennent forme. Mais ma question, c'est comment, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi, comment vous fonctionnez? Ben, j'imagine que vous n'êtes pas tout seul, il y a des liens aussi, à un moment, il y a des liens avec la pastorale du tourisme, avec comment elle s'appelle, Géraldine, Caps. Mais voilà, pour expliquer un petit peu comment, dans le contexte aussi du diocèse
Bien
de
sûr.
Metz, mais comment on fait pour. Quand on a une mission comme ça, on ne peut pas faire tout seul.
Première chose, donc ça, au départ, effectivement, on aurait dû collaborer. C'est comme ça que ça a été mené. Un premier temps, j'étais bénévole, enfin, raccroché à cette pastorale du tourisme. Et puis finalement, c'est devenu un service à part entière au niveau du sport. Donc je ne travaille pas directement avec Géraldine Capps. Mais par contre, l'action qu'on a menée avec le handicap a été mise en place avec la pastorale de la santé et du handicap. Voilà. Donc là, j'ai pu prendre appui sur ces personnes, mais en fait, je prends appui, par exemple, sur cette opération-là, j'ai surtout travaillé avec le comité départemental handisport. Je prends appui plutôt sur le mouvement sportif pour l'instant, parce que je suis dans une démarche où je dois d'abord convaincre l'Église à l'intérieur. Je dois d'abord me faire une place, parce que la pastorale du sport est arrivée comme ça un peu. On considère que c'est quelque chose en plus, alors que moi je suis convaincu que c'est transversal. Parce qu'avec la pastorale des jeunes, on va pouvoir travailler sur le frat d'ailleurs. Et ça, on va faire quelque chose de sympa. Mais là, j'aurai effectivement la pastorale des jeunes en face. Il y a d'autres pastorales, je n'ai pas tout en tête, mais la pastorale de la famille. Je suis intimement convaincu qu'on a des choses à faire. Il faut juste qu'on puisse se voir. Je les ai vus une première fois, mais voilà. Et puis j'ai les prêtres à voir. Il y a 300 prêtres en Moselle. Donc je prends les rendez-vous au fur et à mesure. Alors je fais beaucoup de choses. Seul pour l'instant, mais finalement on va essayer de se structurer, on va essayer de trouver une équipe. Mais enfin, en tous les cas, pour l'instant, je suis assez seul dans la démarche. Et quand vous voyez les célébrations, tout ça, je m'appuie sur les archiprêtres. On fait le boulot ensemble. Ça permet également d'avoir des bénévoles autour, le conseil de fabrique, des choses comme ça. Donc j'essaie de, en fonction du projet, de m'appuyer sur l'existant, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir ce que vous nous avez partagé là. D'abord, enfin, merci de poser les questions. Voilà, j'ai beaucoup aimé la base, voilà, est-ce qu'on est ascendant ou descendant? Après également, ce que j'ai aimé, c'est quand vous avez dit, voilà, quand vous avez parlé de la pudeur, de la laïcité. Enfin, moi, j'étais donc au JMJ à Lisbonne, et donc le ton des Français. Donc, on a eu le témoignage d'Olivier Giroud, lui qui est grand. Olivier Giroud, aujourd'hui, en étant ouvert, hein, c'est pas surpris, ça veut dire qu'on a du mal à repérer, alors c'est bien qu'on a du mal aujourd'hui à repérer des chrétiens catholiques qui témoignent, quoi. Et ça veut dire qu'on. On a quelque chose à aussi à recevoir de nos frères évangéliques qui, eux, sont, n'ont pas le complexe d'être confessants, quoi. Et pour faire le lien à ce qui a été dit tout à l'heure sur les valeurs, pardonnez-moi, c'est un mot que je ne supporte plus, moi. Je vois dans l'enseignement catholique, alors on parle des valeurs, on transmet des valeurs, mais les jeunes, alors j'entends bien, je vois bien tout ce qu'il y a de bon derrière, mais les jeunes, est-ce que nous avons envie d'en venir au Christ, quoi? Jusque-là, quoi. Parce que oui ou non, nous avons envie de l'envoyer au Christ, qui sera vraiment le fondement de leur vie, quoi. Mais pas simplement des valeurs humaines que d'autres, en dehors de l'Église, ont aussi ces valeurs.
Quand vous dites ça, alors je vais vous répondre sur des valeurs. Je
Oui,
peux?
bien sûr. Non,
Ouais.
non, mais
Mais,
enfin, on est là aussi
ouais.
pendant 3 jours, on n'est pas là pour faire de
C'est le chemin pour y arriver.
on est là pour chercher ensemble et
Ouais.
s'interpeller aussi.
Quand je suis intervenu sur le lien entre l'Église et le sport, il y a un lien historique qui est évident, que ce soit par rapport au patronage, alors la Coupe de France de football, tout ça, que vous connaissez, puis après les Jeux, et puis ensuite, mais comme vous n'étiez pas là, j'ai pu le dire, il y avait aussi des valeurs, on a des valeurs communes. Et il y a un truc qui m'avait vraiment marqué, moi je m'en souvenais pas tout à fait, mais je me souviens vraiment des photos, c'est en 68, à Mexico, où vous avez les Américains, en tous les cas les États-Unis, dans une situation où il y a vraiment un vrai conflit entre les Noirs et les Blancs dans leur pays. Il y a un mouvement Black Panther, enfin, que vous connaissez, qui était en place. Et dans une première étape, les Américains ont souhaité de boycotter les jeux. Boycotter. Et en fait, ils se sont dit non, il faut qu'on y aille et on aura peut-être plus de chances d'intervenir favorablement en s'exprimant. Et donc, les premiers qui vont s'exprimer, c'est les cours de 200 mètres. Vous avez un gars qui s'appelle Tommy Smith qui va gagner, qui va exposer le record du monde du 200. Et celui qui doit faire deuxième, c'est John Carlos, qui fera troisième. Il va se faire battre par un Australien. L'Australien aurait jamais dû être finaliste, hein. Mais sauf qu'il est dans un truc, il est dans une forme fantastique. Il gagne sa série en explosant son record. Donc voilà, il fait deuxième. Je pense qu'il a dû faire 20-19, un truc comme ça, 20-19. Sachant que, en tous les cas, c'est une performance de très haut niveau. L'Australien, au moment où il fait cette performance, il sait que quand il va rentrer, ça va être une star. Ça va être une star, parce qu'il a fait un truc monstrueux. Et malgré tout, il connaît le contexte, il sait qu'il va se passer des choses. Et concrètement, il se retrouve en très peu de temps dans le vestiaire pour aller monter sur le podium. Et donc à ce moment-là, il entend qu'il va se passer quelque chose et il va voir l'Américain, donc celui qui fait troisième, qui a un peu les boules, hein, qui lui en veut un peu quand même, qui était un peu le plus excité. Et ce troisième, John Carlos, lui dit, parce qu'il pose la question, l'Australien, est-ce que vous allez faire quelque chose? Il lui dit oui. Et il réfléchit. Et John Carlos, il dit, est-ce que tu crois aux droits de l'homme? Il dit oui. Est-ce que tu crois en Dieu? Il dit oui. Il lui donne un badge, c'est les droits de l'homme, c'est le badge. Et vous verrez sur le podium, vous avez l'Australien qui est devant, donc qui est sur la seconde, il est tout droit avec le badge. Donc vous avez les deux avec le gant noir. Alors vous savez pourquoi l'un a le gant noir à droite et l'autre à gauche? Ils avaient qu'une paire de gants. Et en fait, les deux Américains, carrière terminée. Mais l'Australien, il va rentrer et il va être boycotté tout le long de son parcours. C'est-à-dire qu'il ne va plus accéder aux Jeux Olympiques à Munich, il ne sera plus sélectionné. Et pire, c'est que quand il y a les Jeux à Sydney, il n'est même pas invité. Et c'est qu'après sa mort, que globalement, ils vont se retrouver, c'est sa fille qui va avoir une compensation du comité avec une médaille, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand il décède, ceux qui vont porter le cercueil, c'est les deux athlètes américains. Donc la fraternité, donc en l'espace de quelques secondes, la décision qu'il va prendre, donc avant de monter sur le podium, je ne vais pas prendre un texte biblique pour vous répondre ça parce que je ne suis pas à ma place, mais c'est viens, suis-moi. Moi, je n'avais pas compris ça. Viens, suis-moi, vous vous rappelez du texte où moi je me dis c'est impossible. Un gars qui passe en face d'un collecteur d'impôts, il lui dit viens, suis-moi, et le gars il lâche la monnaie, il se tire, et il va suivre. Je ne pensais pas qu'on pouvait prendre une décision comme ça. Et finalement, si, il l'a fait. Et donc, quand on parle de ça, enfin, en tous les cas, quand on parle de fraternité, je pense toujours à ça, où ils sont devenus frères en l'espace de 30 secondes. Ils étaient concurrents. Voilà.
Moi, je ne sais pas si c'est. Parler de Jésus-Christ, c'est bien, mais si ce n'est pas des valeurs qu'il y a derrière, les gens ne comprennent pas. Si, comment parler de notre foi chrétienne en Jésus-Christ dans le monde actuel si on ne commence pas par parler des valeurs? Je ne sais pas. Je vois pratiquement tous les baptêmes que je fais, les parents disent pourquoi? Ah, pour transmettre des valeurs, il n'y en a plus dans la société. Alors, si je leur dis tout de suite, moi, je vous annonce Jésus-Christ, je ne parle pas de valeurs, ils s'en vont. Alors, c'est une vraie question. Moi, je n'aime pas trop non plus, mais comment parler, comment d'abord partir de ce qu'eux-mêmes vivent et croient avant d'arriver à Jésus-Christ? Ça, c'est une vraie question.
Il y a peut-être les deux
Je ne sais pas comment faire.
sont possibles.
Comment?
Les
Les deux sont
deux sont
possibles,
possibles.
oui.
On peut à la
Oui,
fois
parce
partir de
que.
Jésus-Christ et aller à leur vie, on peut
Oui.
partir de leur vie et aller à Jésus-Christ. Mais à un moment donné, il faut oser.
Alors,
Je sais pas si vous avez...
je voudrais juste
Non,
vous.
mais ça va être le débat, c'est la
Oui.
question. Par exemple, si on va aller, si je, il y a une soirée FSCF, je leur dis, je parle de Jésus-Christ,
Bah,
ils
allez-y,
vont.
essayez.
Ouais, ben, j'ai déjà essayé des choses comme ça.
Alors,
Alors que
ça
si
a
je
bien
dis,
changé
parlons de
maintenant.
ce que tu vis, qu'est-ce que tu vis de bien, de beau, de fort, comment ça te construit, et est-ce qu'il y a quelqu'un derrière?
Oui, non, mais t'as raison, vous
Voilà,
disiez. Non,
peut-être
mais
que
vous
c'est le
disiez tout
débat
à
de
l'heure
toutes les
que dans
droits
une
jours.
compétition, par exemple, on ne vous laissait pas la parole. Mais
Comment?
vous pouvez aller leur demander. Ils ne vous refuseront pas.
Ouais,
Parce que je pense qu'ils ne vous connaissent pas forcément. Non,
Ah
c'est pas
non,
le
non,
cas.
mais, non, mais c'est pour lancer le débat. Je trouve que c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de laïcité
On a besoin
et que le
d'aide.
contexte où, bon, alors que le mot valeur, tout le monde en parle, la valeur de l'entreprise, la valeur de la nation, les valeurs, tout ça, bon, ben, c'est peut-être un mot creux, mais n'empêche qu'au moins, il est employé aujourd'hui et que c'est une base pour aller plus loin. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Vas-y. l'aumônier national.
Il a déjà intégré le contexte dans lequel on vit. Hein. Monseigneur l'a souligné à Olivier Giroud, protestant, il n'hésite pas à dire qui il est. Nous, on est dans une société clairement française où tout ce qui est du domaine religieux, on ne s'affiche pas, c'est renvoyé à la sphère du privé. Donc on est dans ce contexte-là.
Oui, oui, oui.
Deuxième chose, je ne pense pas qu'il faille comme mettre en opposition les valeurs et la personne de Jésus-Christ. Par contre, les valeurs, ben, il ne faut pas s'y arrêter. Pour un chrétien, je prends clairement l'exemple de la FSCF, Fédération Sportive Culturelle de France. Elle a cinq valeurs, c'est les piliers, c'est son projet éducatif. Vous cherchez le nom de Jésus dans tout ça. Donc, il faut préciser. Là, c'est tout un travail, entre autres, à mon niveau. Mais de dire, bah, c'est bien, on a cinq piliers, c'est très bien, mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se reconnaître dans ces cinq piliers. Donc, qu'est-ce qui fait que notre foi chrétienne enrichit ses valeurs et jusqu'où, dans quel domaine, voilà. Et je voudrais aussi remercier beaucoup Philippe d'avoir évoqué les patronages. Bien sûr, comme un lieu privilégié d'éducation, d'évangélisation. Alors, en n'oubliant pas que, historiquement, les patronages ont connu des heures de gloire avec les patronages paroissiaux dans un contexte d'une France chrétienne, massivement chrétienne. Et c'est ce qui a contribué à ces heures de gloire. On n'est plus dans cette situation-là. Et donc, je dirais que même si les paroisses se relançait, ce qui est le cas, il y a tout un mouvement de création de patronage, de relance des patronages, dont je me réjouis beaucoup, en sachant que il y a surtout, pour moi, à mon niveau, ceux qui ne sont pas en lien avec les paroisses, et où la particularité, toute la richesse éducative et de mission d'évangélisation reste très pertinent justement pour ceux qui n'ont aucun contact avec les paroisses, qui n'ont aucun contact avec l'Église, et par ce biais-là, les patronages proposant des activités sportives, eh ben, on peut rejoindre toute cette jeunesse qui ne connaît plus rien à rien à l'Église. Voilà, parce que tous les enfants, globalement, on va dire tous les jeunes, ben, ils aiment le jeu, ils aiment le sport, et voilà. Et c'est un vecteur, naturellement, d'évangélisation tout à fait privilégié. Ça me paraît très, très important. Et je termine simplement en disant que, actuellement, il y a tout un mouvement de patronage, encore une fois, qui se recrée. Et il y a, donc, qui vient d'être, c'est récent, d'être créé, une union des patronages qui veut justement essayer d'appuyer tous ceux qui voudraient créer des patronages, les aider à perdurer, à s'organiser. Voilà, là, il y a quelque chose qui avance. On en est au premier pas, mais il y a une bonne dynamique dans ce sens-là.
Je vais répondre à l'idée de point d'entrée, par exemple Jésus-Christ. Vous reprenez mon témoignage il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'évoquais en fait, comment je suis arrivé ici. En fait, avant 2015, je ne savais pas que Jésus avait vraiment existé. Je vous dis ça, ça vous paraît peut-être complètement stupide. Mais moi, j'ai vécu, j'étais enfant de cœur, j'ai fait le catéchisme comme tout le monde, j'ai la confirmation. Mais c'était une belle histoire. Et puis après, moi, je me suis déconnecté de tout ça. J'étais embarqué sur un projet sportif où le week-end, tu ne vas pas à la messe, tu vas en compétition. Mais par contre, ça m'a rattrapé. Parce qu'à un moment, il y a eu un concours de circonstances où j'ai pu lire un livre sur un an plutôt historique de l'existence de Jésus. Pour vous dire, j'étais tellement perturbé que je suis allé en Terre Sainte pour aller voir, quoi. Pour comprendre comment ça a fonctionné, pour vraiment j'ai été sidéré de savoir qu'il a vraiment existé. Donc moi, si on se rencontre avant 2015 et que vous me proposez de parler de Jésus-Christ, je ne sais pas si, enfin, en tous les cas, j'aurais peut-être pas été touché. Et en fait, c'était une autre approche qui m'a amené à ça. C'est vraiment, donc c'est peut-être, là, je vous donne un témoignage, je vous dis. Et ensuite, par rapport à la place de l'Église dans le sport. Il y a les jeux qui vont s'arrêter. Je pense que la problématique, elle va démarrer après les jeux. Aujourd'hui, On a à peu près 4 à 5 000 gamins qui sont en train de préparer les jeux. Et je peux vous dire un truc, les préparations sont intensives, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ils sont engagés dans une démarche où vous savez que l'incertitude, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress. Les sélections, elles vont sortir au mois de mai, au mois de juin. Donc déjà, il va y avoir beaucoup de déçus dans le sens où l'équipe de France Olympique, bon, c'est en France, mais globalement, en moyenne, aux alentours de 350 en équipe de France Olympique. Donc on parle de 4 000 à 5 000 athlètes, 350-400 sportifs, et ensuite on évoque un volume de médailles. Donc on en a eu 42, je crois, à Rio, je ne sais plus, à Pékin, peut-être à peu près la même chose, et on évoque 60, 80 médailles. 80 médailles, 5 000 sportifs, 15 000 sur liste. Ça va être de la folie. En tous les cas, nous, on sait que pertinemment, on va avoir des jeunes en situation de difficulté, qui vivent hors sol, qui aujourd'hui vivent qu'à travers un événement, et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, parce que même être champion olympique, ça résout rien. En tous les cas, ce n'est pas la finalité. Et vous avez connu Pierre Quinon, qui va se suicider, et qui me racontait qu'en fait, il a commencé sa vie par la faim. Donc quand il me dit ça, c'est qu'il pensait qu'être champion olympique, c'était le Graal, que c'était le truc. Et en fait, il se rend compte qu'il n'y a rien derrière, quoi, en fait. Donc, je pense que j'avais évoqué l'idée de cette aumônerie du sport, sauf que y a un diplôme universitaire qui existe d'aumônier, mais ça n'existe que sur l'ouverture dans les prisons, les aéroports et la santé, pour l'instant. Et donc, quand on évoque le sport, pour l'instant, c'est même pas la peine de le proposer. Donc, je pense que la notion d'aumônerie, d'accompagnement des sportifs,
En France, parce qu'ailleurs, il y en a.
oui, en Angleterre
Et
notamment,
oui, ils viennent avec leurs aumôniers.
oui. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi cette réflexion par rapport aux pratiques intensives de sport. Et il faut vraiment s'y pencher. Et donc, je pense que l'Église a une place. Elle doit être à sa place par rapport aux activités, que ce soit de compétition comme d'éducation. Voilà. Et donc, moi, je suis optimiste parce que j'ai l'impression qu'il y a une ouverture. En tous les cas, je le ressens comme ça, il y a une ouverture. Et après les quelques expériences que je vous ai montrées, ben, je sens que c'est pas déconnant, qu'on n'est pas mal accueilli, que voilà.